When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This episode is brought to you by a mattress with a name, and that name is Douglas. More than 200,000 Canadians trust their Douglas mattress. They trust it so much they sleep on it. I have tried a Douglas mattress, and it's incredibly comfortable. It's a high-quality product at a very affordable price. Comes with a 365-night trial and a 20-year warranty. Douglas is giving our listeners a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca/CanadaLand to claim this offer. That is douglas.ca/CanadaLand.
This episode of Canada Land is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health, CAMH. There is an incredible facility right here in downtown Toronto that is helping on the front lines and is doing incredible innovative research. They are a facility that treats everybody with dignity, and they need your help. May 6th to 12th is Mental Health Week. If this matters to you, help CAMH. There's no better place for your resources. Go to camh.ca/CanadaLand and donate now. Help CAMH treat addiction and build hope.
Bonjour et bienvenue à Shortcuts. Hello and welcome to Shortcuts. To continue in English, press 9. Although I doubt it's going to help you this week. And for this week only. J'ai écrit il y a quelque temps dans ma biographie Twitter que je travaillais à Frenchify Canada Land et je ne disais pas des conneries. Donc, pour la première fois, je pense de l'histoire d'un show anglophone. On me corrigera avec grand plaisir si j'ai tort. On a décidé comme ça de changer de langue pour une semaine, pour le fun. Un show de Toronto qui va se faire en français. On va voir ce que ça donne. Donc, si vous voulez continuer en anglais, ben, ça sera la semaine prochaine. Je m'appelle Émilie Nicolas et je remplace Jesse Brown cette semaine. Notre invitée cette semaine est Nora Loreto, qui est une des moitiés de Sandy & Nora. Elle est aussi auteure et journaliste. Bon retour à Shortcuts, où on jase de nouvelles et de médias pour cet épisode spécial qu'on a intitulé Shortcuts. En français, s'il vous plaît!
Merci, je suis contente ici.
Donc aujourd'hui, on parle désinformation, c'est-à-dire on parle plus spécifiquement de la plainte qui a été portée à l'Ombudsman de Radio-Canada contre Stéphane Bureau, en fait l'émission de Stéphane Bureau, bien entendu, par rapport à l'entrevue qu'il avait fait avec Didier Raoult. Et on parle aussi de ce que les médias peuvent faire ou pas pour nous protéger de la police. Cette émission est commanditée par Paul Ami Patel, Philippe Daniels, Joshua Philippe, Tim Godet, Shruti Shumbra Maya, Tyler Ellis, Derek Becking et Robin.
Hi, I'm Robin, a credit analyst in Calgary, currently hiding out in Thunder Bay. I support Canada Land because Jesse continually makes me think. Most times I don't agree with him, but he gives me something to chew on every week.
Donc, pour notre premier segment, on parle de la fameuse plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada pour l'entrevue de Didier Raoult qui avait été menée par Stéphane Bureau et l'émission, bien entendu, sur les ondes de la radio, la première chaîne donc, de Radio-Canada. pour vous donner, vous remettre un peu dans le bain, le 26 mai dernier, cette entrevue-là a eu lieu avec Didier Raoult. Didier Raoult, qui est un scientifique français, qui est un peu une star depuis plusieurs années de la science, de la recherche médicale en France, et qui a pris dans ces derniers temps une tangente très controversée, particulièrement dans le contexte de la COVID-19. Il fait partie des gens qui voulaient pousser le médicament de l'hydroxychloroquine, donc le médicament par lequel Donald Trump jurait absolument, entre autres choses. Donc, il a poussé ce médicament-là. Il a aussi exprimé des doutes dans l'entrevue même qu'il a fait à Radio-Canada sur le fait que la vaccination était nécessairement utile ou que les risques de la vaccination étaient plus forts peut-être que ceux des bénéfices pour les personnes en bas de 70 ans, ce qui bien sûr aussi est faux. Et donc, un ensemble de choses très controversées qui n'ont jamais été vérifiées par les faits. La plainte de l'Ombudsman de Radio-Canada avance que, comme animateur, Stéphane Bureau n'a pas fait son travail de pousser, remettre en question, corriger les faits contre la personne qui l'interviewait à ce moment-là. Dans un contexte où il y a de plus en plus de désinformation, de plus en plus de théories du complot aussi sur la question de la COVID-19, les médicaments qui fonctionnent, est-ce que les vaccins fonctionnent ou pas, Nora, qu'est-ce que tu penses que cette entrevue-là, d'abord, a fait comme dommage?
Mais rappelons que l'entrevue était faite à la fin mai, comme tu viens de dire. À la fin mai, on était où au Québec? On était au bord de la vaccination en masse. On a vu pour la première fois nos cas en baisse. Et on était comme presque terminé l'année scolaire où la plupart des étudiants au Québec restaient dans leur classe. Donc, de faire la décision de mettre un personnage comme lui aux ondes pendant 43 minutes, je pense que l'entrevue était 43 minutes, sur les radios.
C'est une très longue entrevue, c'était pas un petit 5 minutes là, comme on a l'habitude d'avoir en ondes, c'était vraiment une entrevue de fond, comme on dirait. Là.
C'est ça. Ça, c'est une décision politique. Et je suis très contente de voir que M. Champoux, l'ombudsman de Radio-Canada, a trouvé, il a blâmé la journaliste et l'émission pour la décision de donner une tribune autant large que ça. Et je ne sais pas si tu as eu la chance de lire la décision de M. Champoux, mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant, la façon où l'émission a essayé de justifier pourquoi ils ont donné autant de temps à M. Raoult. Parce que la première chef de contenu d'ici première, Dominique Réaume, quand l'ombudsman a demandé à elle de justifier ou expliquer la logique de donner une tribune autant longue à M. Raoult, elle disait que l'intention n'était pas d'organiser un débat, mais d'entendre la version de Didier Raoult, qui occupe un grand espace médiatique depuis le début de la pandémie sans cacher la nature controversée de ses propos. Mais dans le reste de la décision écrite par M. Champoux, c'était vraiment évident que la rédaction de l'émission n'a pas vraiment donné un espace pour les auditeurs d'apprécier comment loin du norme scientifique et M. Raoult. Donc, je trouve ça très, très, très dommage qu'après un an, et plus qu'un an, que Radio-Canada a pensé que c'était quand même une bonne décision de faire la promotion pour quelqu'un comme ça, en considérant les mouvements qu'on a au Québec contre la masque, contre les mesures sanitaires, surtout à Québec, où l'éclosion de Mega Fitness a comme un peu écrasé la ville pendant un petit moment, un mois. Non, j'ai trouvé ça, c'était pas une décision, une bonne décision en fait par l'émission, et j'étais contente de voir la décision de l'ombudsman.
Qu'est-ce que tu penses qui entre en compte dans la décision d'inviter quelqu'un comme ça? Des fois, les gens, les producteurs veulent avoir des codes d'écoute, donc ils vont aller chercher des stars ou des gens qui ont beaucoup de traction, beaucoup de popularité. Est-ce que tu penses que c'est ça qu'on s'est dit, ben on va essayer d'inviter quelqu'un qui va faire jaser, qui va faire monter nos codes d'écoute? Est-ce que tu penses que c'est ça qui est allé derrière ça, ou on voulait vraiment dire, on va aller voir l'autre côté?
Ça, c'est une bonne question, parce que je pense que parmi l'affaire de Et en français, ça va être vraiment difficile pour moi de dire ça, là. Hydroxychloroquine. L'affaire
de hydroxychloroquine. En anglais non plus, c'est pas bon, c'est ça l'affaire. C'est un truc, peu importe la langue, ça se prononce mal.
Non, mais c'est quoi? C'est le latin, le grec, les mots scientifiques. C'est ça. La hydroxychloroquine, c'était pas comme. Ça restait pas dans le consensus médical mondial qu'il y avait un petit doute qui restait. Ouais. C'est pas comme c'était novembre ou même août 2020, tu sais. C'était mai 2021. Donc, l'idée qu'on peut avoir une discussion avec quelqu'un qui vraiment, vraiment pensait que ce traitement peut vraiment traiter la COVID-19, même si. Le consensus scientifique est clairement que ça ne traite pas la COVID-19. Je pense que ça montre que oui, ils voulaient faire une show, juste de dire « Hey, on a un personnage controversé. » Et c'est important que ça cherche un monde qui ne sont pas des amateurs de Radio-Canada. Ça cherche des auditeurs qui probablement, comme ils se positionnent contre Radio-Canada, qui se positionnent contre les journalistes mainstream. Donc, c'est ça. Et je pense que aussi dans la décision de l'Ombudsman qui était écrite par les propos de Mme Rayom, ils n'ont pas fait assez d'encadrer la discussion, mais Mme Rayom a répondu aux critiques en disant que oui, mais il y avait des autres émissions qui ont traité ces sujets. Oui, mais il y avait une chronique à la fin de cette entrevue qui a traité un peu de les propos disés par Monsieur Dr. Rayom. Mais l'ombudsman disait non, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça ça fonctionne. Oui. Si on a un personnage controversé et surtout dans la radio où c'est des personnes dans leur char qui peut-être écoutaient Radio-Canada pendant 5 minutes, il n'y a pas une façon vraiment de chercher la controverse de quelqu'un comme ça. La question que moi je pose, pourquoi? Pour juste chercher les nouveaux auditeurs qui sont comme des amateurs de Radio-Canada déjà, ça ne donne à rien.
Je pense que le contre-argument que les gens opposent, ben c'est ça qu'ils ont opposé, surtout à Marine Cornu. Donc, Marine Cornu, c'est la journaliste scientifique qui travaille avec le magazine Québec Science, qui a déposé la plainte, je crois, le jour même de la diffusion de l'entrevue à l'Ombudsman de Radio-Canada. Et depuis que je veux pas dire le jugement, c'est pas un juge toujours, mais depuis que la décision de l'Ombudsman a été rendue, la journaliste, bien sûr, son nom paraît sur la plainte, et les gens qui sont des fans de Didier Raoult au Québec ont commencé à la harceler sur Twitter, la harceler aussi dans ses courriels. Il y a des propos extrêmement violents là-dedans. Mais finalement, si on regarde un peu ce qu'on lui reproche, c'est de dire, ben, c'est tout le vocabulaire de la censure. C'est de dire, ben, vous voulez pas entendre des points de vue qui sont divergents, vous voulez pas entendre des points de vue qui sont différents des autres, vous voulez absolument que seule la vérité auquel vous croyez soit entendue sur les ondes publiques. C'est un discours qui prend de l'ampleur. De plus en plus, on mêle la question de la liberté d'expression à la question de la justesse et la vérification des faits en journaliste scientifique. Qu'est-ce que tu réponds, Nora, aux gens qui parlent de l'importance de la diversité des points de vue? Qu'est-ce qu'on répond quand on mêle la question de la liberté d'expression à la question de la justesse scientifique pour dans le journalisme?
Ouais. Bien, la liberté d'expression, c'est évidemment important, mais ça existe dans une façon différente dans le monde de science. Dans le monde scientifique, la liberté d'expression, c'est pas comme j'ai une opinion et toi, t'as une opinion et on a toutes les opinions qui sont pareilles parce qu'ils ont des opinions. c'est un peu comme une chasse de savoir, tu sais. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose avec une étude, et il y a quelqu'un qui voit l'étude et qui fait des critiques, il y a quelqu'un qui critique le critique, tu sais. La façon où on exprime nos oppositions dans la science n'est pas pareille aux façons qu'on exprime nos critiques aux autres enjeux. Donc, ça veut dire que si on a un reportage sur question de science et s'il y a un consensus scientifique, c'est quoi les critiques? Est-ce que les critiques sont basées aussi dans les données scientifiques ou est-ce que les critiques sont basées dans, je ne sais pas, le volonté de quelqu'un d'être une vedette mondiale de hydroxychloroquine?
Hydroxychloroquine.
OK. Mais je vais, après cette émission, je vais être un expert.
Oui, c'est ça, on peut faire un bootcamp de pratique.
Mais non, c'est ça. Donc de mettre ça dans une perspective de liberté d'expression, c'est tout croche. C'est pas une question de liberté d'expression. Et je pense que la plainte portée par Madame Corneau était vraiment détaillée. Elle explique exactement pourquoi ses propos étaient fausses en fait. Et pas juste fausses, mais fausses et que l'animateur n'a pas posé des questions critiques quand le docteur Raoult disait des choses qui sont clairement fausses, n'étaient pas corrigées. Donc, oui, on a liberté d'expression, mais il y a une raison pourquoi le journalisme, c'est une profession. C'est parce que, comme des journalistes, il faut qu'on travaille dans une base de logique, de savoir, des données. Et quand il y a un flou d'une opinion, oui, on explore les opinions différentes. Mais dans ces questions-là, ce n'est pas une opinion divergente. C'est comme une opinion de 2, 3, 5, 10 scientifiques face aux des milliers de scientifiques. Et je pense que c'était vraiment bien détaillé par l'Ombudsman dans sa décision. Et le plus dommage, c'est comment les adhérents de M. Raoult ont vraiment attaqué des personnages qui, haut et clair, disent que ce qu'ils disent, c'est des faussetés. Ce n'est pas du tout vrai.
Est-ce que tu penses qu'avec toute la marde, c'est le bon mot à employer, que reçoivent les journalistes scientifiques, mais les chroniqueurs, en fait, qui essaient de parler des mesures sanitaires, les reporters aussi qui font juste assister au point de presse du gouvernement, tout le monde mange des chars de marde, encore une fois, je pense que c'est la bonne expression, constamment. Je pense que tu en as mangé aussi pour ton propre travail par rapport à la COVID-19. Donc, est-ce que tu penses que les gens commencent à avoir des mécanismes d'autocensure par rapport à ces questions-là? Est-ce que tu penses qu'on peut en arriver à un point où les professionnels des médias vont y penser à deux fois avant d'écrire des choses factuelles concernant la science parce qu'ils se demandent est-ce que j'ai vraiment envie de manger toutes ces critiques-là en pleine face, cette voilée bois mort-là en pleine face ce matin? Est-ce que j'ai la santé mentale pour le faire?
Mm-hmm, effectivement. Si on parle de question de la liberté d'expression, je pense que c'est là le plus important, la question de liberté d'expression. Est-ce qu'on a vraiment la liberté de s'exprimer, de critiquer ces tendances de frange, mais ces tendances qui existent et qui influencent la façon qu'on parle dans ce contexte de la pandémie? Je pense que c'est plate, mais c'est vrai que quand on écrit des affaires qui touchent l'extrême droite, les mouvements anti-masques, il faut qu'on soit prête de recevoir des menaces, de recevoir les attaques en ligne. Et même si je trouve ça inacceptable, je pense que c'est, malheureusement, c'est la réalité. Je vois pas comment on peut gérer ça si les plateformes les laissent faire, laissent aller. C'est intéressant comment les médias sociaux étaient employés pour vraiment encadrer leurs critiques et essayer de les détruire. Parce que c'est pas comme Madame Corneau, elle n'est pas la première personne qui était ciblée par cette gang des adhérents du Dr Raoult. Il y a en même temps une microbiologiste qui s'appelle Elizabeth Bick. Elle aussi avait les mêmes sortes de menaces. Son adresse était postée en ligne. Et tout ça parce qu'elle montre clairement, il y a beaucoup de raisons de n'en pas croire que c'est un médicament qui est utile. Mm-hmm. Donc, de voir la façon que ces deux femmes étaient attaquées, il faut le dire que c'est les attaques, c'est facile, surtout quand c'est des personnes marginalisées qui écrivent ou qui font ces sortes de critiques. Dans The Guardian, quand j'ai fait mes recherches pour cet épisode, il y avait quelqu'un qui disait, si Elizabeth Bick, elle s'appelait Steve ou quelque chose d'autre, c'est sûr que les attaques seraient différentes que les attaques qu'elle a subies. Et je pense que c'est pareil. Je sais que les hommes sont attaqués aussi par ces mouvements, mais je pense que c'est beaucoup plus pire pour les femmes, les personnes racisées et les personnes... C'est des personnes où la foule pense qu'ils peuvent vraiment faire du dommage s'ils attaquent en même temps dans une façon vraiment précise et agressive.
This episode is brought to you by Douglas, a mattress trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. Trust is important. There are a lot of mattress lies out there, a lot of mattress liars. And I didn't intend the pun, but it occurred to me that there is one as I was saying those words. Listen, I am not lying to you. I have experienced the Douglas mattress. It is an exceptional mattress at a surprisingly affordable price point. It is a mattress that sleeps cool, doesn't have that weird thing in the summer where the mattress gets like an oven. It's a very good product. It's delivered to your house in a box. You don't have to go to a big mattress store. It is a medium firm mattress, which is what Canadians prefer, and it comes with a 365-night trial and a 20-year warranty. What more can I tell you? Douglas is giving our listeners a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca/CanadaLand to claim this offer. This episode of Canada Land is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health, CAMH. We got a tour of their facilities in their downtown Toronto campus, and I was blown away by the heroic work that these people are doing. They are saving lives every day. I know people whose lives were saved, and they just really care about the dignity of the people who turn to them for help. Look, we talk a lot about these issues on Canada Land. We talk about the crisis that is claiming 20 lives every day in Canada to drug overdoses. But we don't give you a lot of options of what you can do about it. CAMH is an option. CAMH desperately needs resources that they directly put into their work, saving lives and turning people's lives around. Listen, May 6th to 12th is Mental Health Week. This is when they need your help the most. Go to camh.ca/CanadaLand to help CAMH treat addiction and build hope.
Pour les gens qui sont déjà habitués à notre podcast, vous savez qu'on a toujours un segment Duly Noted où on prend en note différents éléments de l'actualité qui ont pu passer sous le radar. Donc, on va faire la même chose en français. Nora, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais qu'on prenne en note?
Oui, j'aimerais prendre en note quelque chose que moi j'ai écrit. Je sais, c'est un peu croche de faire l'autopromotion, mais bon, je vais faire ça quand même. J'ai sorti une chronique hier qui a montré pour la première fois c'est quoi le nombre de personnes qui a décédé de la COVID, d'une infection qui a obtenu après admission dans l'hôpital. Et c'était vraiment difficile de trouver cette information. J'ai cherché partout et finalement, c'est l'Institution canadienne d'information de la santé qui a sorti ces chiffres. Et on peut dire qu'au Canada, il y avait plus que 1600 personnes qui sont décédées à cause d'une infection de la COVID qui a attrapé quand ils étaient déjà dans l'hôpital. Donc, moi, je le note parce que je pense que c'est très important qu'on sait comment le contrôle d'infection dans nos hôpitaux était pendant la pandémie. Mais encore plus important, c'est on n'avait aucune, mais il y avait seulement le Manitoba qui a sorti ces chiffres dans une façon régulière. Au Québec, il y avait les reportages, les accès aux informations qui étaient faits par les journalistes. Donc, on sait qu'il y avait des éclosions majeures dans l'hôpital Chicoutimi, l'hôpital Rosemont-Maisonneuve, l'hôpital de Saint-Jérôme. Mais à part ça, dans le reste du Canada, on ne sait pas trop. Donc, j'ai obtenu des chiffres pour le reste du Canada hors Québec, c'est des chiffres qui n'incluent pas Québec. Mais quand on ajoute ce que tu as déjà annoncé au Québec, on sait que, comme j'ai dit, c'était plus que 1600 personnes qui étaient décédées. Donc, je trouve ça très dommage.
Wow. Donc, dans le fond, tu veux qu'on prenne en note ton propre journalisme, c'est bien ça?
Exact.
J'adore l'autoplug. Elle est tout à fait à propos, puis je pense que c'est effectivement quelque chose qui est à suivre de très près. Merci, Nora, c'est bien noté. Est-ce que je peux te demander aussi de prendre en note quelque chose?
Ben oui, vas-y.
Il y a quelque chose qui me met en beau calice. Écoutez, c'est la première fois qu'on fait un épisode en français. Je décide qu'on va traduire le niveau de langage qu'on s'autorise tout le temps en Canada Land en anglais. Si vous n'êtes pas content, vous savez où vous plaindre. Donc, une affaire qui me met vraiment en calice, c'est que ça fait 2 mois maintenant qu'on est en train de mettre la lumière sur la question des tombes d'enfants autochtones qui ont été retrouvés près des pensionnats. C'est un été très difficile, très lourd, particulièrement pour les communautés autochtones qui ont survécu aux pensionnats. Il y a de la colère, cette colère-là s'exprime de toutes sortes de façons. Et il y a notamment eu une augmentation des incendies, certains d'origine criminelle dans certaines églises. Il y a plusieurs communautés autochtones elles-mêmes qui disent qu'il faut faire attention, ces églises-là n'ont rien à voir, dans certains cas, avec l'histoire des pensionnats. Donc, c'est une histoire de colère, c'est une histoire qui fait beaucoup de débats à l'intérieur des communautés mêmes. Et là, pendant ce temps-là, t'as des populistes qui profitent du fait qu'on a eu un sommet sur l'islamophobie et un sommet sur l'antisémitisme dans les derniers jours pour dire, ben, où est le sommet sur la christianophobie? C'est de la christianophobie ce qui se passe en ce moment. Il y a des églises qui brûlent, puis on fait pas attention à la majorité chrétienne au Canada. Les gens qui parlent de ça ne parlent pas de l'histoire des pensionnats dans la façon dont ils mettent de l'avant ce discours-là de la christianophobie, évacuent complètement le contexte, et je trouve ça profondément malhonnête de prendre l'histoire des pensionnats puis d'essayer de twister ça pour en faire un truc de majorité opprimée puis de racisme anti-blanc sous un autre nom. Donc, franchement, ça me désole de voir ce genre d'analyse-là qui prend absolument pas en compte le contexte de l'été et le contexte des discussions stratégiques qui ont lieu en ce moment, des discussions de valeurs, des discussions qui sont ancrées dans la douleur qui ont lieu en ce moment dans les communautés autochtones à travers le pays.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et la réalité avec l'Église catholique, c'est qu'il y a beaucoup de victimes qui existent partout au Canada. Oui, c'est sûr dans les communautés autochtones, mais aussi hors des communautés autochtones. Donc, je suis contente que tu as le bien noté et je vais bien noter.
Merci, Dara. Dimanche dernier, c'était le 1er août, la journée où l'on commémore et célèbre la journée de l'émancipation. C'est-à-dire, c'est un 1er août qu'on a décidé finalement d'abolir l'esclavage dans l'Empire britannique, qui inclut le Canada. Donc, c'était une journée de célébration dans les communautés noires à travers le pays. Ce jour-là, le 1er août, dimanche dernier, la police de Repentigny a abattu un homme noir, Jean-René Junior Olivier, devant la résidence de sa mère, Marie-Mireille Benz. Ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est que l'homme était en crise et que c'est sa mère elle-même qui a appelé la police pour obtenir de l'aide. Elle a dit d'ailleurs en conférence de presse à plusieurs reprises, « J'ai appelé pour demander de l'aide, vous avez tué mon fils. » C'est une histoire qui est très difficile et c'est une histoire qui n'est absolument pas nouvelle. Année après année, il y a des personnes en crise, particulièrement des personnes noires et aussi particulièrement des personnes autochtones pour lesquelles on appelle les services de police et que les services de police mal formés pour répondre à des crises de santé mentale les abattent plutôt que de les aider. C'est lourd, mais bon, Shortcut, c'est un podcast où on parle principalement des médias comme tels. Puis, je me demandais, Nora, est-ce que dans ce cas-ci, dans la façon dont on en parle, est-ce que tu vois qu'on en parle différemment qu'on a parlé de Abdirahman Abdi ou de Andrew Locou ou de Alain Magloire ou de les personnes qui ont perdu la vie avant le fameux mouvement George Floyd? Est-ce que tu penses que il y a plus de sympathie du public, de la critique de la police, c'est plus mainstream? Qu'est-ce que tu sens dans la façon dont on parle de ce qui s'est passé dimanche dernier?
Ouais, j'ai réfléchi beaucoup sur cette question et je pense que oui, il y avait un changement. Par exemple, Radio-Canada, dans le reportage, il inclut un point de dire que dans les policières de Repentigny, il y a 120 policières et seulement 3 d'entre eux sont des minorités visibles. Je pense qu'on n'a pas vu cette sorte d'information avant. dans un reportage de violence policière, même de poser la question, est-ce que ça, c'est le racisme? Je pense que même là, en 2018, c'était plus comme, oh non, c'était un homme en crise abattu par les policières. Pas la question que, est-ce que c'était parce qu'il est noir? Et j'ai vu que ça, c'était une question posée directement par Andrés Fonticia de Québec solidaire. Et je pense que c'est la question que beaucoup des journalistes se posent aussi. Est-ce que c'était fait parce que M. Olivier était noir? Mais le problème, c'est même si on pose une question comme ça, ça ne répond pas à la question. C'est comme il y a toujours une réticence dans les médias de poser, de répondre à ces questions, de dire clairement, bien évidemment, c'est une question de profilage racial, évidemment, c'est une question de la suprématie des Blancs. Et surtout, c'est quoi dans la société québécoise avec la communauté haïtienne où ça reproduit souvent? Comme toi, j'habite dans les deux mondes anglais-français et je souvent essaie de faire les comparaisons. Est-ce que c'est le couvrage médiatique est mieux ou plus pire qu'à Toronto ou à Ottawa ou Calgary? Et ça, je reste pas certaine qu'on est plus pire ou moins pire. Je pense que c'est les deux.
Ouais.
Mais la question de fond, est-ce que ça a changé le couvrage? Je pense que oui. Et la seule chose, avant que je termine, je veux noter que j'ai vu que sa famille disait qu'on veut qu'il soit comme George Floyd, on veut que sa mort sera un moment déclencheur important dans la société québécoise. Et je pense que encore là, c'est un signe que oui, on a bougé un peu plus d'avancée que nous étions avant la pandémie. Mais un peu.
Oui, parce que bon, il y a une longue histoire de cas comme ça, ici même à Montréal. Puis, tu sais, juste pour peut-être donner des éléments de l'historique récente, là, de la couverture médiatique d'événements comme ça. Je me souviens, par exemple, quand la police de Montréal a tué Pierre Coriolan dans le centre-sud de Montréal, qui était aussi en crise de santé mentale, un peu comme Jean-René Junior Olivier, il tenait un objet dans sa main. Puis la police l'a abattu, Pierre Coriolan, dans son propre appartement. Au début, on n'en parlait presque pas. Un peu comme dans le cas de Olivier, ce qu'on a fait, c'est insister sur l'objet qu'il avait dans sa main, sur le fait que les policiers avaient peur, et on reviendra sur la notion de peur, là. Mais ce qui s'était passé, c'est que le silence était presque complet. On parle de l'été 2017. Dans les médias, particulièrement les médias francophones, ce qu'il a fallu, c'est organiser une manifestation à laquelle j'étais. Les gens de Black Lives Matter Toronto, dont Sandy Hudson, avec lequel Suko anime ton podcast, Nora, était venue à Montréal aussi. Donc, cette manifestation-là avait eu lieu devant l'appartement où Pierre Coriolan était abattu. On a marché jusqu'au festival de jazz qui avait lieu à Montréal. On a monté sur une des scènes du festival de jazz et c'est parce qu'il y a eu ce coup d'éclat-là que finalement on a commencé à parler de Pierre Coriolan. J'avais fait partie des gens qui avaient organisé la conférence de presse de la famille Coriolan. Ça avait été très difficile d'avoir une présence médiatique forte. Puis là, ben, ce que je vois, c'est que au moins là, la famille de Jean-René Junior Olivier a organisé une conférence de presse lundi dernier. Et là, déjà, on avait une forme de présence, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de caméras. C'est pas que les médias anglophones de Toronto ou de Calgary sont absolument pas mieux que ce qui se passe en français. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a une petite bulle de Montréal anglophone, que ce soit Global CTV, CBC ou La Gazette aussi, qui sont sur le terrain depuis des années pour couvrir ce genre d'événements-là, mais que leurs branches, qui sont beaucoup plus grandes dans les autres villes canadiennes, font pas vraiment ce travail-là. Il y a comme une espèce de mentalité spéciale dans les anglophones du Québec, dont tu fais partie, Nora. Donc, apparemment, les anglophones québécois sont nice. Il y a comme, parce que je sais pas si tu t'identifies à une minorité ou quelque chose, puis je veux pas romantiser non plus l'affaire, il y a une bulle là-bas, mais que ce que je remarque, c'est qu'il y a un rattrapage depuis la question de George Floyd, où on commence à parler de ces questions-là différemment. Il y a encore des problèmes, mais on est au moins un peu plus prudent dans la façon dont on raconte ou qu'on rapporte la version du Bureau d'enquête indépendante, donc celle du BEI pour l'instant.
Oui. Ben, je pense que tu as mentionné le point de presse qui était organisé par la famille.
Mm-hmm.
Et je pense que ça, c'est très, très important parce que si on voit les situations où les policières tuent quelqu'un,
mm-hmm.
s'il n'y a pas un bruit qui était fait par la famille ou une communauté, c'est pas mal ignoré dans les mm-hmm. médias. On parle pas beaucoup. Peut-être, il y aura une investigation BRI, mais à part ça, si la famille fait pas le travail qui on a vu beaucoup des familles fait, incluant la famille de Monsieur Olivier, je pense que ça, c'est la façon la plus facile où les communautés peuvent s'exprimer plus dans les médias. Et quand j'ai dit ça, je pense à Andrew Locu. Mm. Quand Andrew Locu a été tué à Toronto, en Ontario, je me souviens qu'il n'y avait pas vraiment de nouvelles là-dessus.
Absolument
mais
pas,
c'était
non.
Black Lives Matter mm-hmm. qui vraiment faisait le travail pour assurer que du monde parlait de sa mort. Et après ça, on voit des autres noms, comme mm-hmm. Regis Korchinski-Paquette, quand elle est morte suite à une intervention policière. C'était la façon où la communauté a réagi, où ça a changé la façon que les journalistes ont fait le couvrage. Donc, je pense que les communautés, ils sont plus organisés et ça force les journalistes qui sont majoritairement blancs de parler de la racisme dans une façon où c'est plus facile de ne pas parler quand il n'y a pas cette attention dans qu'est-ce qui se passait. L'autre affaire, c'est il y a, oui, une connaissance qui est plus en plus dans les médias de Montréal, je dirais, parce que à Québec, on voit presque pas.
Pas encore.
Pas encore. Moi, j'ai essayé de penser d'une histoire de la profilage racial à Québec et je peux pas vraiment penser d'un exemple. T'sais, un exemple qui était dans les journaux, mm-hmm. Même si on mm-hmm. sait que ça se passe dans les rues. Mais les médias à Québec, c'est majoritairement, presque ouais. complètement blanc, et je pense qu'il n'y a même pas une personne noire qui travaille dans les journaux à Québec.
Non, mais il y a eu quand même une sensibilisation sur l'enjeu de l'islamophobie.
Oui.
Depuis la mosquée de Québec, donc les crimes haineux à ce niveau-là.
Oui.
Mais sur la question de la police, comme tu dis que là-dessus, il reste un travail à faire.
C'est ça, mais encore là, avec l'islamophobie, c'était grâce à l'organisation qui était faite par la communauté musulmane. C'est toujours à une responsabilité des familles et de la communauté de forcer les médias de prendre sérieux le racisme mmh. dans ces situations.
Je me demandais, tu viens de dire que finalement, c'est à cause des activistes puis des militants que les journalistes réagissent plus à ce genre d'événements-là. Est-ce que tu penses qu'on couvre plus l'événement ou on couvre en fait les manifestations en réaction avec les tragédies qui se sont passées ou c'est un mélange des deux? Mmh. Est-ce que ça prend finalement des coups d'éclat pour qu'on en parle ou le simple fait que l'activisme a lieu dans le zeitgeist?
Oui, non, mais je pense que c'est un mélange des deux parce qu'un des principes de militantisme, c'est qu'il faut qu'on crée quelque chose pour les journalistes d'écrire là-dessus. Si on ne crée mm-hmm. pas quelque chose pour les journalistes dans une conférence de presse, il n'y aura rien qui va écrire là-dessus. Moi, je reçois toutes les annonces du Bureau d'investigation de la police de l'Ontario et je sais qu'il y a beaucoup d'épaisses à travers la média et il n'y a aucune mention là-dedans. On ne sait pas qui était tué, on ne sait pas qui était blessé, on ne sait pas qu'est-ce qui se passait et c'est juste les communiqués qui sont sortis par le bureau et des fois, s'il y a une mention médiatique, c'est juste comme le même texte du communiqué. Mais nous, aussi les citoyennes, si on veut interpeller les journalistes de faire un couvrage médiatique qui a une garde plus importante sur qu'est-ce qui se passe dans nos communautés, il faut qu'on crée les espaces parce que ça, c'est comment la média s'en crée. Et mm-hmm. je le critique, je pense qu'il y a un problème majeur avec ça. Mais si on assume que, bien, c'est comme ça, le lendemain d'une intervention policière, s'il n'y a pas une conférence de presse de la famille, il n'y aura aucune mention de la famille. Et ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. C'est pas juste qu'on demande ça des familles. Mais quand les familles l'en font, ça donne une histoire, ça donne un article aux journalistes. Oui. Et à la fois, quand la communauté se mobilise pour montrer qu'on est contre ces pratiques, on est contre le fait que les polices tuent, on est contre la brutalité policière, le racisme, le profilage racial, ça donne encore le moment pour les journalistes de crier là-dessus et ça donne l'excuse de parler aux dirigeants communautaires qui battent contre ces injustices quotidiennement.
Non, c'est compliqué. Puis, effectivement, médiatiquement, ça aide quand il y a tout de suite une réaction des familles, l'information des familles qui circule. En même temps, des fois, quand les gens ne sont pas encore des conseillers juridiques autour d'eux ou quand les gens n'ont pas encore des conseillers médiatiques autour d'eux, si, par exemple, tu essaies de faire une poursuite au civil, on peut, si tu décris publiquement, si tu as été toi-même témoin de ce qui s'est passé, si tu décris publiquement ça, alors que tu devrais le faire en cours, c'est compliqué. Donc, ça a été souvent ça que j'ai vu qui a été un obstacle aussi à la prise de parole rapide des familles, c'est le fait que, plutôt que de parler du fait qu'on est en colère contre ce qui s'est passé, puis que la personne, on aimait la personne qui était perdue, si on parle rapidement de l'incident comme tel, ce que les journalistes nous poussent à faire, ça peut devenir compliqué. Donc, d'avoir une communauté qui est prête à épauler ces familles-là qui sont extrêmement souvent émotives, qui sont en colère, qui sont en deuil, qui sont sous choc, que le BEI tout de suite qui vient cogner à leur porte pour leur demander de l'information, c'est toute une tempête à passer, puis toute une entreprise à dans laquelle mettre un peu d'ordre, mais de le faire avec énormément d'humanité. Et on fait ça pourquoi? On fait ça parce que les médias fonctionnent comme ça. Donc c'est une forme de violence systémique aussi avec laquelle on est obligé de vivre. Puis c'est un peu ça que tu mentionnais là.
C'est ça.
Une dernière chose sur laquelle je voulais te lancer par rapport à ça, c'est la course à sortir la nouvelle rapidement, qui est aussi un problème systémique dans le journalisme, qui fait en sorte que, ben, si les policiers, justement, sont les plus rapides sur le piton à sortir l'information, puis c'est beaucoup ça qu'on a vu. On n'a pas d'information des familles, on ne sait pas qui est la personne, mais par contre, la seule information qu'on a, c'est les policiers qui nous rendent public le dossier judiciaire de la personne qui a été tuée.
Ouais.
C'est ça l'information qu'on va avoir. Puis tout de suite, ben, c'est comme ça que le récit est amorcé. C'est comme ça que le récit est cadré. Donc, la première chose qu'on apprend, c'est cette personne-là est morte. Cette personne-là a fait telle chose dans le passé. Ce qui laisse entendre, évidemment, que cette personne-là méritait de mourir. Qu'est-ce qu'on fait éthiquement dans le milieu journalistique pour essayer de balancer le besoin de publier rapidement, puis aussi de mettre de l'avant l'information qui est sur une personne qui vient de mourir, qui vient seulement des sources policières?
Non, ça, c'est un grand problème et c'est exactement comment les policières y encadrent qu'est-ce qui se passait. Et il y a aussi des journalistes qui ont des liens importants avec les policières et ils gardent ces liens pour avoir des scoops, pour avoir les informations des autres affaires, des autres enquêtes, et ils ne veulent pas brûler leur relation avec les policières parce que ça les aide dans leur travail. Ça empourrit leur travail, je dirais, mais bon, il y a des journalistes qui pensent que ça aide leur travail. Donc, oui, on a besoin que les journalistes soient beaucoup plus critiques face aux policières. De présumer, je pense qu'il y a trop souvent la présomption qu'il y avait quelque chose qui a passé, qui nécessitait une intervention violente. Et si ça causait la mort, c'est dommage. Ça, c'est pas normal.
Mais c'était sûrement nécessaire.
C'est ça
les réactions d'ailleurs qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. Là, quand on dénonce tout de suite le fait qu'une crise de santé mentale mène à mort d'homme, les gens sont comme, oui, on ne savait pas les détails, plutôt que de dire, mais en fait, il n'y a aucun détail, il n'y a aucune justification qu'on pourrait organiser notre société autrement pour obtenir à 100% du temps un résultat qui ne mène pas à la mort. Mais tout de suite, la réaction, c'est on ne sait pas les détails, on ne sait pas comment tu n'étais pas là, tu ne sais pas comment les policiers se sont sentis, tu ne sais pas dans quelle position ils étaient placés. Puis c'est je dirais 75% là, des commentaires qu'on voit sur les réseaux sociaux qui s'opposent à la critique immédiate sont de ce type-là.
Oui, évidemment, ça s'est basé dans le capacitisme et le racisme. Donc, quand il y a quelqu'un qui a une crise de santé mentale, c'est les propos capacitistes qui sortaient. Oh, il est violent, c'est pas qu'est-ce qu'il va faire. Oui, bien sûr, les policiers doivent réagir dans une façon, je sais pas, agressive. Donc, si on demande aux journalistes, ben, change les assumptions que vous faites dans le reportage. Et si on imagine que le job d'une policière, c'est de garder en vie les personnes avec qui ils interpellent pour qu'ils puissent, ben, dans ce cas-là, aller à l'hôpital ou si c'est une situation de violence, ben oui, il faut que vous gardiez les personnes en vie pour qu'ils puissent être dans le système juridicière. Ça, c'est comment le système fonctionne, tu sais. Donc, il faut qu'on entasse l'idée que, oh oui, la violence est nécessaire des fois pour les interventions policières et pose la question, pourquoi utilisez-vous la violence autant souvent? Et aussi, bien sûr, parler le racisme haut et fort quand il y a des situations comme ça. Surtout quand il y a une situation où les policiers blancs sont face à face avec quelqu'un qui est noir et l'interaction, ça termine avec le décès de personne qui est noire. Ça, c'est clairement... moi, je dirais que c'est... En anglais, je choisirais mes mots avec beaucoup plus de confiance, tu sais, mais moi, je dirais que ils ont activement tué quelqu'un. Les policiers blancs ont activement tué quelqu'un qui est noir. Donc, ça veut dire que l'État a permis le racisme systémique de tuer, et ça, c'est où nous sommes en 2021 au Canada.
C'est intéressant que tu hésites pour choisir tes mots parce que c'est aussi une chose que je remarque sur la couverture médiatique, c'est-à-dire que les mots que tu viens d'employer, un policier de race blanche qui tue une personne d'homme noir. Quand c'est le temps de rapporter dans les médias francophones un incident qui s'est passé aux États-Unis, on le fait sans 0000 problème. Mais quand c'est ici, on marche plus sur les œufs. C'est comme si le fait qu'il y ait une organisation raciale de la société aux États-Unis, c'est une évidence, puis on se fait pas traiter de militant, de quoi que ce soit, si on en parle dans ces termes-là, mais on fait vraiment attention à la façon dont on nomme ou dont on ne nomme pas les choses lorsqu'il est question de choses qui se sont passées au Canada. Donc, c'est tout pour cet épisode spécial de Shortcuts en français, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Nora, d'avoir accepté de participer à l'émission.
Merci, c'était le fun.
Nous sommes toujours sur Twitter à CanadaLand. Vous pouvez envoyer un courriel dans la langue de votre choix à Jessie, à jessie@commercialcanadaland.com. Il va lire tout ce que vous écrivez. Nora, où est-ce que les gens peuvent te trouver?
Vous pouvez me trouver sur Twitter à NoLore, c'est N-O-L-O-R-E, et aussi, partout. Je suis pas mal partout, là.
Partout! On peut trouver ouais. Nora sur les internets.
Et, c'est ça!
Quant à moi, vous pouvez aussi m'écrire à CanadaLand et me trouver dans Le Devoir et dans le Montreal Gazette où j'écris des chroniques. Cet épisode est produit par Tiffany Lam avec l'assistance de Tristan Capacchione. La musique du générique est faite par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et dites-le à Jessie pour l'encourager à faire plus d'émissions en français. Ceci est un test. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Vous allez demander. Ça dépend de vous et de votre réaction. Un grand merci d'avoir écouté et de soutenir CanadaLand.
This episode is brought to you by Douglas. If you know of a better Canadian mattress at a better price point, well, you're just a liar and you're lying to me right now. No, Douglas is trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. I know this mattress. I trust this mattress. Douglas is giving our listeners a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca/CanadaLand. To claim this offer, that's douglas.ca/CanadaLand.